Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
23h46 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Françoise au 3921. Bonsoir Françoise.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Françoise ?
De Belgique, mais nous nous sommes parlé il y a un bout de temps. J'ai les idées très confuses et vous savez pourquoi et les auditeurs sauront pourquoi.
Donc... Françoise, je me souviens de... Et pardonnez-moi, c'est votre voix que je reconnais.
Oui.
Vous m'avez appelé pour votre mari qui, la dernière fois que nous nous sommes parlé, votre mari, en tout cas, vous craigniez que votre mari ait une tumeur au cerveau, c'est ça ?
Non, on ne savait pas très bien.
On ne savait pas, oui, mais il avait mal
on
à la tête.
Pas. Il avait mal dans l'épaule.
D'accord.
Oui, mais enfin, vous vous rappelez de l'essentiel, oui. Il avait mal dans l'épaule et il avait en effet un nerf coincé entre les cervicales. Et en fait, ce nerf coincé était dû à une tumeur qui appuyait, effectivement. Et je me rappelle qu'à l'époque, vous m'aviez dit, mais ne voyez pas tout de la manière la plus dramatique. Vous aviez vous-même eu un examen, je me rappelle, à l'époque. Ouais. Donc, vous devez peut-être vous rappeler mieux que moi de l'époque.
Complètement, je me souviens très bien. Mais je tenais à vous dire que, bon, pour l'instant, il fallait garder de l'espoir et donc du positif.
À l'époque, oui.
Du positif,
c'est ce
à l'époque.
Que vous m'aviez dit.
Oui.
C'est ce que vous m'aviez dit. Alors, j'ai dit plusieurs fois à Florian que j'avais vraiment un grand désir de vous parler parce que je trouve que vous êtes un homme très sensible et je suis sûre que nous sommes très nombreux à penser la même chose, avec des réponses toujours très, très pondérées et qui viennent du plus profond de vous. Mais par ailleurs, j'ai aussi dit à Florian que je suis très, très gênée, dans le sens très, très ennuyée ce soir de parler à l'antenne. Mais malheureusement, il n'y a pas mille moyens de vous parler. Et c'est tout à fait normal, parce que si vous deviez vous consacrer à tout le monde en dehors de l'antenne, eh bien, pendant 24 heures sur 24, vous seriez au téléphone.
C'est possible.
Je comprends très bien que ce soit le seul moyen de vous joindre. Et donc, je l'ai pris, mais je suis très, très... très ennuyée de parler à l'antenne, non pas pour l'antenne, parce que ça a été mon métier, je vous l'avais dit à l'époque, c'est pas l'antenne qui me dérange, c'est le fait de parler en public de quelque chose de si intime et qui que je ne veux pas transformer en spectacle.
Oui, j'entends.
Voilà. Alors, les funérailles de mon mari ont eu lieu aujourd'hui, Olivier.
D'accord, donc c'était donc une...
Oui, c'était une, comme D'accord. vous dites. Et elle a été fulgurante. Elle a été fulgurante parce qu'il n'y a pas 4 mois, il était encore en pleine forme. Quand je vous ai téléphoné et qu'il avait mal, ça commençait. Mais à ce moment-là, quelques jours avant, enfin, il était même encore à ce moment-là, enfin, il était en forme. Mais quelques jours avant, il était en pleine forme, malgré son âge aussi, parce que c'était plus un gamin, parce qu'il y a une différence d'âge entre nous. Mais il a eu toutes les activités qu'il voulait avoir, aussi bien physiques qu'intellectuelles, parce que c'est un homme intellectuel dans le sens réel du terme. Et il y a encore quelques semaines, il me dictait des articles qu'il voulait que je fasse paraître, que j'ai d'ailleurs fait paraître, parce qu'il ne bougeait plus, parce que même lire lui était devenu difficile, et donc il ne faisait plus que réfléchir, et donc il me dictait le fruit de ses réflexions, et puis même ça, ça lui demandait trop d'énergie. Mais donc, voilà, j'ai vu un homme qui maintenait une forme extraordinaire, et puis... Et puis il s'est vraiment affaibli à une vitesse incroyable, en cessant de manger et puis en cessant de parler, puisqu'il n'a plus pu parler, et puis en ne pouvant plus marcher, et puis pour finir, en ne pouvant même plus boire. Et voilà. Et je me tourne vers vous parce que je cherche une façon de continuer. Alors, si j'étais toute seule, ben, je préférerais partir. D'ailleurs, j'aurais tellement voulu partir avant lui, parce qu'on en avait parlé, lui et moi, et je lui avais dit, s'il m'arrivait quelque chose, tu ferais quoi? Et il m'avait répondu, je serais immensément triste, mais je continuerai. Moi, je lui disais toujours, sans toi, je ne suis rien. Et il trouvait, je ne vais pas dire ça ridicule, mais presque, enfin, il disait que ça l'exaspérait, ce genre de discours. Il me disait que je ne pouvais pas être en symbiose avec lui, que la symbiose n'est pas une bonne chose, mais que ça n'empêche pas de s'aimer profondément. Et puis, je n'y suis jamais arrivée. Et au bout de 35 ans, ben voilà, je suis toujours en totale symbiose et je le reste. Et si je reste ici, c'est parce que nous avons, je vous l'avais dit à l'époque, je pense, une petite chienne, deux chats qu'il a voulu il y a un an et demi, donc ils sont encore des gamins. Et je ne pourrais pas partir en les abandonnant parce que ce sont nos gosses et que deviendraient-ils? Mais malgré tout, je me demande comment je vais faire maintenant. Ça fait 9 nuits qu'il est parti dans mes bras. Et je ne sais pas comment je fais pour vous en parler avec autant de calme. C'est le matin qui me trouve totalement dévastée. Et quand je me réveille le matin, je me dis, et voilà, encore une journée inutile. Ça fait 8 jours que je me dis ça. Une journée pour 2-3 gamins, là, bien sûr, mais une journée inutile. Alors, de nature, je suis une hyperactive. Donc, depuis des mois, mon métier, c'est d'écrire des livres, je vous l'avais dit aussi.
Oui.
Et depuis des mois, depuis le printemps, sans doute, j'ai écrit plusieurs livres parce que voilà, ben, ça m'est donné de travailler vite, je pense sérieusement aussi. Et donc, ce sont des livres qui demandent beaucoup de recherche. Ça me passionne. Donc, je veux dire, c'est pas un effort pour moi parce que j'adore ça. Et j'ai écrit plusieurs livres dans une espèce d'urgence, comme si je savais qu'il fallait les faire avant quelque chose. Et il y a même, je ne sais pas moi, il n'y a peut-être pas encore 15 jours même, mon éditrice à Paris m'a écrit en me disant, voilà, le dernier livre, je crois, oui, que j'ai écrit, elle m'a dit, je vous le prends. Et vous le savez tout aussi bien que moi, c'est toujours une discussion avec l'éditeur, parce qu'on change des chapitres, on les bouge, enfin bon, il y a des modifications. Et cette fois-ci, elle m'a dit, je vous le prends comme ça, point. Et je suis vite allée près de lui, et il ne parlait quasi déjà plus, et je lui ai dit, tu sais, ce livre-là va sortir. Alors, et il m'a dit qu'il en était heureux dans ce peu de souffle qu'il avait pour parler, et ce peu de voix, enfin, vraiment, il n'en avait quasi plus. Et je lui ai dit, je t'en supplie, tu vas maintenant tenir, jusqu'à sa sortie, au moins. Parce que ce livre, je l'ai écrit avec quelque chose que tu m'as appris. Et il m'a dit oui, mais je savais que ce n'était pas possible. Et donc, même ça, voilà, ce livre n'est même plus une joie, parce que, ben voilà, j'aurais tellement voulu le lui offrir. Et donc, le matin, ben voilà, avant, je me levais en disant, ah, je cours vers mon nouveau manuscrit ou mon manuscrit en cours. Et maintenant, depuis 8 jours maintenant, je me réveille avec le cœur dans la bouche, comme si une terreur était sur moi. Et je passe la journée à pleurer, assise sur ma chaise. Et puis en fin de journée, j'avale un tranquillisant, je me mets avec ma petite chienne au lit, dans le noir, comme maintenant d'ailleurs. Et je parviens quand même à m'endormir. Et c'est le seul moment où je suis tranquille, c'est pendant la nuit, dans le noir. Mmh. Avec la peur déjà du lendemain matin, où je sais que ce sera horrible. Horrible parce que je ne me sens plus rien. Voilà, maintenant je me tais, Olivier, et je vous laisse parler.
C'est-à-dire que vous êtes en ce moment dans le moment qui est le pire en fait, qui est l'effroi de la solitude, de la perte de celui qui a partagé votre vie. Hein, et ça faisait très longtemps que vous étiez ensemble tous les deux.
Oui, oui, bien sûr.
Et oui. c'était votre mari, c'était l'amour, mais c'était aussi devenu, finalement, cet homme, il représentait tout, l'amant, l'ami, et il représentait tout pour vous.
Tout, exactement, tout. Parce qu'on a toujours pu, et j'entendais l'autre jour quelqu'un dire, justement, dans une autre radio, parce que malheureusement, là où je suis, au premier étage, je ne parviens pas à capter votre émission, et J'en suis désolée depuis des années, mais je ne parviens pas à avoir le Wi-Fi, là, où je ne suis pas très douée, d'ailleurs, non plus, mais enfin, bon. Et donc, voilà, enfin, dans une autre émission, parce que je dors avec un écouteur dans mon oreille, mais ça se fait déjà depuis bien, bien longtemps. Et j'entendais quelqu'un qui disait, on ne doit pas tout dire à son mari ou à sa femme. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Enfin, de toute façon, pas une question d'accord, mais nous, en tout cas, on s'est toujours tout dit, tout, mais vraiment tout. Et on ne se cachait rien, des plus petites bêtises jusqu'aux choses les plus profondes de nos pensées. On a toujours tout échangé, en tout cas moi, mais je crois que lui aussi. Et maintenant, je me dis, mais voilà, à qui je parle? Alors c'est vrai que j'ai une amie qui est ici depuis des semaines et qui vit avec nous depuis des semaines, à qui mon mari a fait d'ailleurs des recommandations par rapport à moi. Et nous avons des amis qui téléphonent et qui sont vraiment très très gentils, mais c'est pas lui. Et je me dis tout le temps, ma question c'est, mais comment vais-je continuer? Mais comment vais-je encore respirer?
Oui, oui. Alors Françoise, voilà. on va continuer de parler ensemble. Vous comprenez qu'il m'est difficile, en tout cas, de revêtir celui qui va pouvoir vous soulager. Mais je pense qu'on peut peut-être ce soir essayer de prendre des engagements ensemble. On laisse passer l'info sur Europe 1, si vous le voulez bien, et puis on se reparle dans quelques secondes. D'accord ?
Bien sûr, Olivier.
À tout de suite. Oui. Françoise, nous en étions à cette situation où vous êtes dans l'effroi. Hein, c'est ce que toute personne qui perd sa moitié traverse. Vous dire que cet état ne va pas durer, il va durer un moment. Maintenant, le temps, vous le savez, le temps fait les choses, il les fera lentement, hein, sans doute, dans le mois qui arrive, dans les prochains mois. Mais moi, je crois toujours qu'à un moment, il y a quelque chose qui renaît, et qui renaît du souvenir que l'on peut avoir de celui avec qui on a traversé cette vie, de l'amour qu'on lui porte toujours, de l'écoute que vous aviez et que vous avez encore, parce que lui, je pense qu'il a dû vous le dire avant, si l'un de vous partait avant, il fallait surtout continuer de vivre, continuer d'aller au bout de ce chemin et qui n'est, vous le savez, Françoise, vous m'avez dit que ce métier, vous l'avez pratiqué pendant de longues années. vous écrivez des livres, donc vous savez que cette vie, elle est merveilleuse, mais qu'en même temps, elle est semée d'embûches, elle est semée d'épreuves, et d'épreuves terribles, comme celles que vous traversez là, en ce moment. Vous dire que vous n'êtes pas seule, parce que vous m'avez dit avoir des amis là-bas en Belgique.
Oui, et ailleurs, nous avions une vie assez internationale. Donc c'est vrai que les appels me viennent d'un peu tous les coins, Scandinavie, là-bas, de France, beaucoup aussi, de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits.
Oui.
Évidemment, la situation actuelle n'arrange rien pour nous voir. Et tout le monde me dit, tu es la bienvenue, viens un peu chez nous, mais pas maintenant, puisqu'on ne peut pas, etc. Mais de toute façon, oui, bien sûr, je ne veux pas me montrer ingrate et dire que ça ne compte pas du tout, du tout, du tout. Je sais que c'est extraordinaire déjà d'avoir ces gens-là. Mais vous savez bien, Olivier, c'est lui que je veux.
Bien sûr,
c'est lui,
je sais,
c'est lui
je sais.
Qui est. C'est lui qui est ma vie, c'est lui qui est ma respiration. Et il était tellement vivant qu'il ne pouvait pas accepter d'être amoindri comme il l'a été.
Oui.
Et c'est dramatique comme il a été amoindri.
Mais je pense qu'il faut maintenant, Françoise, que vous ne pensiez plus à ce moment-là, parce que ce moment-là n'est plus ce moment de souffrance. Ce moment où il était amoindri, il faut faire l'effort de penser qu'il est libéré de cela, parce que il est libéré de cette souffrance, il est libéré de ces derniers moments qui ont dû être terribles pour vous, mais terribles pour lui, et ça a été fulgurant, mais finalement, tant mieux qu'il ne soit pas resté de longs mois. À agoniser, de longs mois à souffrir et à dépérir petit à petit. Vous voyez, il faut quelque part essayer de trouver de la lumière dans ce qui est sombre. Et tous ces moments sombres que vous avez dû traverser ces derniers moments qui devaient être terribles parce que vous saviez que c'était fini, lui devait le savoir aussi. Et ce qui est important, je pense vraiment du fond de mon cœur que vous devez vous libérer de cette vision-là, de cette douleur, de sa douleur, parce qu'elle n'est plus cette douleur.
Mais je lui ai dit une chose que je n'imaginais jamais dire un jour. Je lui ai dit, tout contre son oreille, je lui ai dit, tu vas me déchirer, mais si tu veux partir, je t'y autorise. Et à partir de ce moment-là, sa respiration a changé et il n'est plus resté longtemps.
Mmh.
Et je l'ai fait par amour.
Et c'est ce que je vous disais, Françoise, il faut continuer de faire les choses par amour. Il faut, dans quelques semaines, quand la situation va s'améliorer, parce qu'elle va s'améliorer, quand les frontières vont rouvrir, quand vous aurez la possibilité d'aller visiter... les amis que vous connaissiez tous les deux, il va falloir de toute façon bouger de cette maison, prendre votre petit chien et puis aller voir les amis qui vous sont chers, parce que de toute façon, c'est ce qu'il aime que vous fassiez, c'est ce qu'il veut que vous fassiez.
Oui, sauf qu'il était beaucoup plus fort que moi, Olivier. C'est un homme de force, c'est un homme qui était à la fois philosophe et à la fois artiste. C'était des choses qu'il pratiquait. C'est vraiment au quotidien, c'était la philosophie, c'était l'art. Et moi.
Mais vous, il était aussi tout ce qu'il était grâce à vous, Françoise. Aussi, vous avez fait beaucoup pour que votre mari soit ce qu'il était, qu'il ait eu tout ce temps et tout, sans doute toute cette créativité. Il était votre être extraordinaire, je n'en doute pas une seule seconde. Et cet être extraordinaire, vous verrez, de toute façon, vous verrez que dans quelques temps, cet être extraordinaire vous accompagnera d'une manière différente, plus douce, que son absence sera toujours sujette à vous angoisser un peu, ou parfois à vous rendre triste. Mais il y aura une amélioration dans votre état. Il y aura une amélioration parce que petit à petit, vous allez réaliser que vous continuez vous, et que à travers ce que vous allez faire vous de cette vie qui est la sienne aussi, parce que il était ce qu'il était grâce à vous, mais vous êtes aussi cette femme brillante que vous êtes grâce à lui aussi.
Et certainement.
Vous savez,
certainement.
Je vais vous raconter une histoire.
Oui.
J'ai un très vieil ami qui s'appelle Frédéric, et qui est un ami qui était avec moi en cinquième. Donc vous voyez combien nous nous connaissons, nous nous connaissons tous les deux.
Oui.
Et Frédéric a rencontré, il y a une quinzaine d'années, la femme de sa vie. L'un et l'autre avaient fait leur vie avec d'autres, et puis ils ont vécu un véritable coup de foudre. C'était là-bas, en Thaïlande. Lui était dans le commerce international. Elle était sculptrice. Sculpteur, on dit, pour une femme, ou sculptrice, je ne sais plus. Sculpteur,
on va dire. Je ne sais pas pour les féminins. Donc
mais elle faisait de merveilleuses statues. Et c'était une artiste en plein essor. Vous voyez, elle était très créative, et là-bas, les choses commençaient à prendre en Asie. Et lorsqu'ils se sont rencontrés tous les deux, tout est devenu facile. Et je sais que vous savez de quoi je parle, parce que quand deux êtres s'aiment, se respectent et partagent ce qu'ils ont en commun, et quand je dis respectent aussi l'autre en tant que personne unique, ayant sa liberté, son jardin secret, eh bien, c'est ça qui devient fort dans l'amour. Et mon ami a vraiment vécu cela avec cette femme pendant 12 ans. Et puis, elle était vraiment en pleine réussite. Et lui était devenu celui qui s'occupait de la fabrication, parce que c'était un processus pour faire les... c'était de vous savez, c'est... Ces statues que vous fondez dans des moules de cire. Enfin, il y avait tout un processus qui faisait qu'il est devenu celui qui l'aidait à fabriquer et assembler ces statues qui parfois se retrouvaient à Shanghai, par exemple, dans le parc central de Shanghai, et avec une statue qui faisait 12 mètres, 15 mètres de haut. Elle faisait des petites statues comme de grandes statues, vous voyez. Et ils étaient tous les deux passionnés par la nature, par la moto. Ils faisaient de longues virées en moto à travers la Thaïlande, à travers le nord de la Thaïlande. Et ils faisaient aussi beaucoup de bateaux à voile. Et à 1h30 de Bangkok, il y avait un club de voile où ils allaient souvent. Et puis, au retour de ce club de voile, Frédéric a vu sa femme quitter la route avec sa moto. Ils étaient sur la route, mais ils n'allaient pas spécialement vite, mais ils étaient à 80, puisque tous les deux avaient des motos quand même assez importantes, en tout cas des gros cylindrés. Mais il devait être à 80, 70, 80, et il a vu sa femme d'un seul coup partir tout doucement comme ça dans les décors.
Oui.
Elle a sans doute eu un malaise, ou peut-être une rupture d'anévrisme, un truc. Mais en tout cas, elle est morte.
Quelle horreur.
Et j'ai vu mon ami, mais détruit. Comme vous l'êtes actuellement. J'ai vu mon ami errer dans sa maison où il y avait toutes les statues de sa femme.
Voilà.
Où tout, tout respirait. Mais...
Parce que lui aussi fait ça.
Mais vous voyez, il était désespéré et ne voyait pas comment il allait continuer à vivre, à respirer.
Exactement.
Mais ça, Françoise, vous le savez, que vous saviez que vous avez recueilli la parole, vous avez entendu des personnes que vous aimiez exprimer cette douleur profonde quand on perd l'autre.
Oui.
Mais le temps a fait que maintenant ça doit faire 4 ans et je vois à nouveau mon ami sourire, je vois mon ami manger avec ses enfants, les enfants de son ex-femme, s'occuper de échanger avec les enfants, la famille, les amis, évoquer le souvenir de sa femme sans que ce soit une profonde douleur. Bien évidemment que c'est encore douloureux, parce que quand on perd quelqu'un de valeur, de proche, cette souffrance, elle est à vie, mais c'est l'intensité qui varie selon les moments, selon comme on est sur le moment, si on est plus fort ou moins fort, ou dans un état de fatigue, ou parfois en pleine forme, et où on vit mieux cette absence. Mais ce qui est certain, c'est que la machine humaine que nous sommes, Françoise, la merveilleuse machine humaine que nous sommes, a cette capacité à transformer le souvenir, le manque, en honorant celles ou ceux qui nous ont quittés, vous voyez, et auxquels on a tenu. Et cette notion-là, elle est à la portée de tout le monde, je crois. Et je ne veux pas vous rassurer spécialement là, quand je vous parle, mais je crois que j'ai vu tout autour de moi ces personnes perdre leur moitié et remonter. Et ensuite, continuer à vivre avec cette moitié, mais qui n'était plus là physiquement, mais qui était là à travers ce qu'on pouvait évoquer de lui, dans la bouche de celui qui l'avait perdu, ou dans la bouche des amis, à travers des souvenirs, à travers des photos, à travers lorsqu'on évoquait des moments passés ensemble. Et vous êtes faite comme ça, Françoise, aussi. Vous vivrez ce moment-là, ce moment où vous sentirez, tiens, aujourd'hui, où vous culpabiliserez parce que vous aurez moins pensé à lui à un moment, une journée. Et puis, cette sensation-là, elle ne fera que s'amplifier. Et cette culpabilité, vous la vivrez aussi de ne pas penser à lui. En tout cas, de penser moins à lui, parce qu'un jour, vous allez moins penser à ce que vous traversez en ce moment. Là, vous avez inhumé votre mari ce matin. Ce qui ne serait pas normal, c'est que vous m'appeliez pour me dire « ça va, tout va bien ».
Oui, bien sûr, bien sûr.
Alors, je dis « vous », parce que j'ai connu d'autres personnes qui acceptaient le départ, qui acceptaient le manque,
oui.
Le vide.
Mais vous aussi, vous l'avez accepté
plus d'une fois. J'ai beaucoup souffert, Françoise.
Je sais.
Longtemps. Mais j'ai aussi ressenti cette petite chaleur, cette toute première petite chaleur qui me rappelait à la vie et qui me rappelait que j'étais en vie et que surtout, je devais, comme si je devais honorer ce qui me manquait et ce pourquoi j'étais en vie.
Oui, je sais qu'il serait très fâché de me voir effondrer.
Non, il ne serait pas très fâché. Non, il ne serait pas très fâché, il comprendrait.
Oui, il comprendrait parfaitement. Mais il me bousculerait aussi, il dirait si, je pense, enfin, il serait fâché.
Il y a de grandes chances qu'il vous dise, allez, remonte la tête, redresse la tête, regarde. Il y a d'autres personnes qui t'aiment, qui nous aiment, qui te respectent, qui nous respectent. Et je n'ai, même si je ne suis plus là, je suis là quand même, parce que ce n'est pas parce qu'on disparaît physiquement qu'on n'est plus rien. On existe à travers, je vous le dis, le souvenir, les mots.
six amis m'ont déjà demandé un livre sur lui. J'en avais déjà écrit des petits pour son art.
Voilà,
maintenant, ils
voilà.
m'en demandent un grand, mais...
Voilà un beau projet, moi, je trouve.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Ce oui. serait une manière de faire passer un peu le temps en même temps que communier un peu avec lui et peut-être dans l'écriture, vous réfugiez dans l'écriture le temps que cela vous fera du bien, parce que ça sera aussi continuer cette relation avec lui. Mais c'est une,
oui,
c'est une très belle idée d'écrire sur lui.
Oui, oui, c'était une demande de son meilleur ami, une demande immédiate. Il m'a directement dit, il faut qu'on relance, il faut que tu fasses un livre. Et il faut qu'on relance la fondation, parce que moi, j'avais voulu faire une fondation pour ses œuvres il y a déjà très longtemps, surtout pour une qui est quelque chose de tout à fait neuf. Et lui, il ne voulait pas, parce que ce n'est pas quelqu'un qui aime être mis en avant, et puis surtout pas quelqu'un qui aime les problèmes administratifs. La preuve, c'est que cette fondation, mais elle végète depuis des années, parce que je ne suis pas une femme d'affaires non plus. Et nous avions, enfin, il m'avait demandé de la fermer en se fâchant un petit peu, en me disant maintenant ça suffit, cette fondation ne sert à rien, on va la fermer. Et puis maintenant, son meilleur ami me dit mais non, si on va la relancer en son nom, il faut en faire quelque chose pour lui. Et je ne sais pas, je suis tiraillée parce que j'ai envie de l'écouter lui qui m'a dit non. Et selon son mot, qui est, je ne sais pas si on le dit en France, mais je crois que si, il me disait « bazarde » ça.
Oui, bazarde. C'est bien belge ça, « bazarde-moi ça ».«
Bazarde-moi ça », voilà. Il disait « bazarde » ce truc. Et moi je lui disais toujours « mais non, je l'ai faite pour toi ». Et alors maintenant je ne sais pas si je dois continuer ou pas parce qu'il m'avait dit non. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, évidemment, j'ai envie de tout maintenir comme ça, en surface pour lui.
Mais oui, et pour vous aussi. Parce que, Françoise, n'oubliez pas que les autres, et vous, la première, vous allez continuer à vivre pour lui. En fait, il existera. Vous voyez, moi, je suis intimement persuadé que ceux que j'ai perdus
oui.
Vivent mais dans une autre dimension, mais à travers moi, à travers l'amour que je leur porte, à travers les pensées que j'ai pour eux, à travers l'évocation du souvenir que j'ai d'eux, et puis oui, en leur parlant aussi régulièrement, parce que j'ai cette croyance aussi. Donc,
oui, moi aussi, je lui parle tout le temps.
Et mais c'est bien, c'est bien. Et il faut, dans ce moment... cruel, ce moment de noir, de sombre, arriver à relever un peu la tête et à commencer à écrire dans les jours qui viennent. Il faut que vous gagniez du temps, parce que rester dans le noir, allongé et ne rien faire, ne sera que, comme vous savez, vous faisiez référence à l'agonie que ça aurait pu être, parce que ça a été fulgurant, ce qui a touché votre mari. Il ne faut pas que vous agonisiez, là, dans la tristesse, dans la douleur. Il faudra, dans quelques jours, vous mettre à l'écriture de ce livre. Et vous évoquer... Croyez, oui. J'en suis sûr, Françoise. J'en suis sûr. Parce que vous vous sentirez moins seule, déjà, parce que ça sera une communion avec lui. Et en plus, vous aurez vite cette... Je suis certain que vous aurez vite cette sensation d'écrire pour quelque chose, pour que quelque chose reste. Et c'est très compliqué à expliquer avec des mots en même temps. C'est écrire pour maintenir ce lien, en fait. C'est plus ça, mais ce lien un peu extraordinaire que nous sommes capables seuls de créer et qui est unique et qui est très intimement lié à celui qu'on aime et qu'on a perdu. En faisant quelque chose envers lui, sur lui, en fait, écrire sur lui, c'est, ça sera vraiment une manière de le maintenir près de vous et en même temps de vous habituer à cette nouvelle vie sans lui, mais quand même un peu avec lui.
Oui, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vous dis, je m'accroche pour nos aliments, parce que deviendrait-il ? Et voilà, mais c'est pour eux que je m'accroche.
Mais c'est très bien, parce qu'ils sont là aussi et qu'ils font partie aussi de votre histoire à tous les deux et qu'il y a beaucoup d'amour dans tout ça et que c'est très bien que ces petites bêtes soient là parce qu'elles ont besoin d'amour et que vous leur en donnez mais que lui leur en donnez aussi. Donc vous savez que tant que la vie ne s'arrête pas, la vie est une répétition d'épisodes, de choses, et que dans cette répétition d'épisodes, il y a l'épreuve que vous traversez. Mais ça ne sera pas toujours comme ça, Françoise.
Je ne sais pas. Pour l'instant aussi, je suis très révoltée.
Mais c'est normal, c'est normal que vous soyez révoltée.
Parce qu'il aimait la vie, parce qu'il avait même alité est tellement faible. Il disait, l'année prochaine, je ferai ça. Et l'année prochaine, je planterai telle fleur, etc. Même comme ça, il l'a dit. Et je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi l'avoir empêché de continuer ? Et je ne suis pas croyante. Je suis agnostique, lui aussi. Et donc, quand je dis pourquoi, je ne pense pas spécialement à quelqu'un qui est venu le prendre. Je dis simplement que c'est la maladie qui l'a terrassé. Mais je trouve ça profondément injuste pour quelqu'un qui ne voulait pas ça, qui s'en foutait pas de la vie, quoi.
Mais non, mais la mort est injuste. Vous le savez, cette vie formidable, je le dis souvent sur cette libre antenne, lorsque j'évoque certains êtres humains qui peuvent développer un amour inconditionnel de leur petite personne et se trouver à mépriser les autres, à penser qu'ils font mieux que tout le monde. Ces gens qui oublient que notre condition à tous, elle est la même.
Bien sûr.
Et donc il est tout à fait normal, en tout cas, que vous viviez ce chagrin immense. Là, cette douleur immense, mais elle va s'atténuer. Et vous faisiez allusion au fait que c'était difficile de me parler hors antenne. En fait, je me permettrai de vous appeler pour savoir comment vous allez. Et voilà, je m'engage vraiment à vous appeler pour savoir comment tout ça va venir va évoluer dans les semaines qui viennent, hein.
Ça me touche beaucoup, vraiment très profondément, je vous en remercie. Merci Olivier, je vous ai déjà dit, vous êtes une très belle personne, et si le monde était peuplé de plus de gens pareils, peut-être qu'il tournerait beaucoup mieux.
Peut-être, mais peut-être pas, Françoise, vous savez, le monde. Je regarde en thérapie en ce moment sur Arte, l'adaptation française d'une série israélienne qui a été faite aussi aux États-Unis. Et j'ai oublié le nom de l'acteur principal qui est le psy. Et il ne cesse de dire « Le monde n'a jamais cessé de s'écrouler ». Et je trouve que cette phrase est assez belle parce que c'est vrai. Le monde n'a jamais cessé de s'écrouler, mais en même temps, ça veut dire qu'il n'a jamais cessé de renaître, ce monde. Donc,
voilà, oui, c'est ça. Oui.
Et je ne suis pas certain qu'avec que des gentils, le monde tournerait comme il faut. Je pense que, voilà, il faut des gentils, des méchants. Et puis, c'est sûr qu'en ce moment, c'est un peu plus les méchants qui prennent le dessus et qui gagnent. Mais,
qui se font entendre, oui.
Mais peut-être que ça ne durera pas tout le temps. Hein,
je ne sais sais pas, c'est les périodes de décadence et puis de nouveau les autres. Je crois que pour l'instant, ce n'est pas une période de grande gloire, en tout cas.
Non, mais en ce moment, c'est une période difficile, quoi qu'il arrive.
Oui, oui, tout à fait.
Courage, hein, ma chère Françoise. Et j'ai deux numéros en fait concernant le GSM en fait et le 492, c'est ça?
Oui, je crois. Oui, c'est ça. Oui.
D'accord.
Oui, c'est ça. Okay. Et puis vous avez le 315 qui est le fixe.
Qui est le fixe, d'accord. Et je vous appellerai, d'accord?
Je vous remercie infiniment.
Je vous en prie. Et courage à vous, hein.
Merci beaucoup, Olivier.
Restez debout la journée, hein, faites des choses. Occupez-vous de vos fleurs, de votre maison, et commencez ce livre.
D'accord.
Hein?
J'essaierai.
Je vous embrasse, Françoise.
Moi aussi, je vous embrasse. Je vous remercie infiniment.
Je vous en prie. Au revoir. Olivier.